Veuillez ouvrir vos Bibles en psaume 119. Psaume 119, versets 73 au verset 80. Psaume 119, verset 73 au verset 80. Une fois encore, je voudrais vous rappeler que ce que nous lisons n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Et donc, il faut que nous suivions cela avec beaucoup d'attention et également beaucoup de concentration. Psaume 119, verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Prions. Père, encore nous nous réjouissons de cette opportunité que nous avons de considérer ta parole et d'étudier ta parole, d'étudier ce que tu as dit concernant ta propre parole, les écritures que tu nous as données. Nous prions que tu nous aides à suivre cela, à obéir à cela, et que tu nous permets de comprendre ce à quoi tu nous as appelé à croire, et en tant qu'individu, en tant qu'Église, nous soyons transformés par ta parole, et nous demandons cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La semaine prochaine aussi, nous allons considérer les bonnes et les bénédictions des afflictions. Quand nous avons les difficultés, les afflictions, nous comprenons que Dieu utilise ces moments pour que nous puissions tirer profit, pour que lui y soit glorifié. Et donc, les afflictions, ce n'est pas facile. Nous ne restons pas souvent pour dire « Je veux que Dieu me punisse, je veux que mes voisins puissent me persécuter. » Non, ce n'est pas une prière que les saints font. Mais ces choses arrivent, pas parce que nous les demandons dans nos prières, mais parce que Dieu a permis cela. Dieu permet ces choses dans nos vies pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Et nous allons seulement les comprendre lorsque nous croissons dans la grâce. C'est vrai que nous ne désirons pas les afflictions, mais c'est bon de comprendre la nature des afflictions et les objectifs pour lesquels Dieu permet ces afflictions. Et lorsque nous faisons face à ces afflictions, nous pouvons tenir fermes et fidèles parce que nous avons écouté ce que Dieu a dit concernant les afflictions. Le psaume 73, c'est un verset clé de notre compréhension de ce passage. Il dit au peuple de Dieu, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes commandements. Il a commencé avec cette prière que Dieu lui donne cette intelligence. Le peuple de Dieu, en particulier David, a fait cette prière. Il dit que c'est bien que Dieu lui montre ce qui se passe et pourquoi ces choses lui arrivent. Et donc, ce sermon, c'est un bon sermon. Nous avons assez d'espérance pour ceci. Mais il y a de cela deux semaines, le passage qui précède ce que nous étudions aujourd'hui, nous avons compris que ce que Dieu fait est bon quand nous avons les défis, les difficultés, les épreuves. C'est des choses qui nous arrivent et Dieu utilise ces moments pour nous renforcer, nous fortifier. Aujourd'hui, nous voyons encore les afflictions et nous voyons quelles sont leurs causes et les objectifs que ces afflictions, pour lesquelles les afflictions viennent. Quels sont les avantages qu'on peut tirer des afflictions. Nous voyons la source qui est Dieu et nous voyons également l'accomplissement de ces afflictions qui est la finalité, qui est la gloire de Dieu. Parce que nous sommes naturellement enclins à penser que si quelque chose de mauvais arrive, c'est peut-être que Dieu avait voulu que cette mauvaise chose arrive. Mais nous devons nous poser la question, pourquoi sommes-nous arrivés à cet état? Et donc, en lisant les deux versets 73 et le verset 74, cela commence avec cette déclaration que le salmiste dit clairement qu'il a été fait par les mains de Dieu. Dieu l'a créé et au fil des temps, nous avons la compréhension que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir la compréhension et être obéissant. Il dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Et ce n'est pas simplement David voulait comprendre ce que les commandements disent dans la langue, mais il luttait pour comprendre ce qui se disait. Mais non seulement ça, il voulait apprendre et appliquer ce qui s'est réalisé avec l'étude et la méditation des commandements de Dieu. Donc l'homme était créé à l'image de Dieu et il, Genèse chapitre 2 verset 7 dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est Dieu qui a créé l'homme différemment des autres créatures qu'il avait eu à faire. Et pour ceux d'entre vous qui avaient des chiens ou des chats, je veux mettre ensemble cela parce que je veux être un prédicateur inclusif. Est-ce que vous avez remarqué que avant que votre chien ou votre chat va à son nourriture, quand vous mettez l'assiette, vous mettez la nourriture, et alors le chien ou le chat a la nourriture là-bas et qu'il veut demander, est-ce qu'il prie pour... les chats font les choses des chats, les chiens font les choses des chiens, mais ils ne comprennent pas qui Dieu est, ils n'adorent pas. Ils sont des créatures de Dieu, ils sont une bénédiction pour nous, comme des animaux domestiques et les animaux non domestiques. Il y a des animaux que nous mangeons, ces animaux sont une bénédiction pour toi, mais ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Et donc, lorsque le psalmiste parle ici, il dit que j'ai été créé par tes mains, il dit qu'il faut que tu me donnes le souffle de vie. Les autres animaux ont le souffle de vie, mais bien qu'ils vivent dans l'eau, ils respirent. Mais ici, l'homme est distingué des autres créations. Et cela donne à l'homme l'espérance que Dieu écoute et exauce les prières. Et cela montre également les attentes que quelque chose va arriver, quelque chose de différent de l'homme et sa relation avec le Créateur, que nous soyons en mesure de comprendre que nous avons été créés et que nous embrassions, nous acceptons Dieu dans notre adoration et dans notre consécration. Et donc, toute personne, Dieu agit cela. Il dit dans Psaume 139, versets 15 à 16, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu sécrétisé dans les profondeurs de la terre. » Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Et quel est l'objectif de l'homme? C'est pour glorifier Dieu et de se réjouir de Dieu. Et l'objectif pour lequel nous sommes créés, c'est pour la gloire de Dieu. Et le psalmiste parle de Dieu qui nous a appelés à comprendre notre relation avec Dieu et que nous avons été créés pour connaître les voies de Dieu à travers la connaissance, à travers les commandements de Dieu, ses statuts, ses préceptes, pour que nous puissions avoir cette compréhension que Dieu vient à travers l'illumination du Saint-Esprit, la connaissance de Dieu vient seulement par l'illumination du Saint-Esprit. Et cela a lieu par l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu doit faire, il n'y a pas un autre moyen de connaître Dieu. Et comme le psalmiste nous ramène à la loi, il nous rappelle également que nous devons comprendre que cette compréhension, cette intelligence n'est pas une chose de la compréhension manuelle ou charnelle de la discussion de la Bible, mais cela, cette intelligence, cette compréhension doit inclure la connaissance de Dieu, l'adoration de Dieu, le service de Dieu. Nous devons nous rendre disponibles pour son service et disposés pour jouir de ses bénédictions. Nous devons avoir une nouvelle nature, nous devons être changés. Et comme David a prié, il dit que « Fais-nous avoir la nouvelle grâce. » Et il dit « Fais de nous des peuples de Dieu qui t'adorent. Donne-nous la compréhension, l'intelligence pour qu'on puisse comprendre que nous avons été mis en part. » Et donc Dieu, le Saint-Esprit, prend le contrôle de tout et l'œuvre de Dieu dans la création, le fait de nous mettre ensemble, le fait de nous séparer, sera fait de nous des gens qui acceptons Dieu pour le suivre. Le verset 74 mentionne quelque chose qui concerne la nature de l'homme. « Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent. » Et parle à Dieu, il dit « Ceux qui te craignent, ceux qui te révèlent, ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent, tes enfants, ceux qui te connaissent, ceux qui te craignent, vont voir moi, David. » Ce que tu as fait dans ma vie, nous allons nous réjouir parce qu'ils ont de l'espérance dans ta parole. Ils ont mis leur confiance dans la parole de Dieu et ils ont vu que cela se réalise et ils se réjouissent. De la même manière, quand nous voyons les œuvres de Dieu dans la vie de quelqu'un, que ce soit dans la communion de l'église ou dans la famille, quand nous apprenons que cet homme, cette femme, cet enfant, et nous ne comprenons pas comprendre les Dieu. Dieu différemment, et c'est de cette manière que nous parlons à nos enfants. Peut-être qu'une occasion où les enfants sont appelés à se réjouir, à croître dans la grâce, ils cherchent les moyens pour pouvoir les regarder et nous les voyons et nous disons voilà, c'est ça, nous nous réjouissons à cela, nous sommes encouragés et nous prenons plaisir à cela parce que nous savons que si Dieu peut œuvrer en eux, ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que nous, mais si Dieu peut travailler avec eux, à combien plus forte raison, nous allons jouir de ces bienfaits dans nos familles. Et ceux d'entre vous qui craignaient l'Éternel, regardez David, ils étaient contents parce qu'ils espéraient dans la parole de Dieu qui est exposée dans la vie de David. Vous devez noter que cela peut être aussi la source de leur bénédiction ou de leur défi. Ceux qui se réjouissent alors qu'ils perdent leur espérance en Dieu. Et donc, c'est pour eux un encouragement et d'espérer dans la parole de Dieu. Et cette espérance est uniquement pour ceux qui adorent Dieu. Et nous allons voir encore et encore que dans ce psaume 119, dans tout le passage, vous voyez à travers toute la Bible que la crainte de l'Éternel dont nous parlons, ce n'est pas une peur qui est tremblante, qui va se dire que je vais être en retard, je ne peux pas livrer et ils vont rester dans un traumatisme total. Mais c'est parce que nous voulons révérencer, nous voulons l'adorer, nous voulons le louer. Et donc, David qui dit que nous allons être contents parce que j'ai de l'espérance en toi, je crois en toi, tu me fais du bien. Et dit nous allons nous réjouir, nous allons être le verset 114, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as illuminé. Les deux premiers versets, 113 et verset 114, ceux qui craignent l'Éternel, c'est l'Éternel qui nous a aimés. Et ils ont dit que j'ai accepté la parole de Dieu, je vais structurer ma vie, ma passion, mes pensées par rapport à ce que Dieu a dit.
Et ils voient cela et ils sont encouragés parce qu'ils savent que cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas quelque chose. Je me réveille et je prends la décision de faire cela. Mais ou bien je vais croître dans la grâce et ils disent que j'ai un manuel qui parle de comment croître dans la grâce. Et je vais le faire pour croître dans la grâce. Non, quelqu'un qui a la compréhension et les bénédictions de Dieu, la nature d'une telle bénédiction, c'est que c'est accompli par Dieu, le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Dieu nous a formés et par la grâce de Dieu, nous avons été amenés à une connaissance élargie. Nous nous réjouissons dans le verset 75. Il dit dans le verset 75: je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Il y a des gens qui disent que parfois, si vous n'avez pas la réponse, si les livres sont très utiles à cela, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas énervés contre les livres, mais quand ils sont mécontents de ce qui se dit dans la livre, dans les livres, dans le livre par exemple, ils mettent le livre de côté. Mais les livres, c'est vrai que les livres aident à comprendre plusieurs choses, mais quand nous comprenons ce que nous sommes en train d'étudier ce matin, David a fait la liste des choses dans lesquelles nous devons être aidés. Nous pouvons comprendre ce qui se passe. La vie n'est pas parfaite. Alors, vous allez avoir dans le verset 75 et le verset 76, il y a plusieurs jeunes élèves qui sont rejetés parce que quand ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait pour eux, et ils sont découragés. Les hommes sont aidés. On leur dit qu'ils sont des héros, des super-héros. Mais quand ils grandissent, ils se réalisent, ils se rendent compte que la vie n'est pas ce que je pensais qu'elle soit. La vie est pleine de difficultés et de luttes. Et ce qui se passe à vous, dans votre vie, ce qui se passe, c'est que les afflictions, les découragements, les luttes auxquelles vous vous êtes confrontés, voilà ce que le salmiste fait. Il fait la provision de ce qui nous aide dans notre compréhension de comment la vie peut nous empêcher. Dans le verset 75, ce que nous apprenons, c'est que verset 75: je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Ce n'est pas très bon de ce que nous étudions, mais c'est important de voir plus en détail cela. Et celui à qui la fidélité de Dieu est dirigée peut être qui est juste, qui est fidèle. Vous m'avez affligé. Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que cela l'amène, la fidélité de Dieu l'amène à me faire du mal? 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est la moitié de ce, ou bien le milieu de ce passage, il dit: Dieu est fidèle et c'est lui qui s'est engagé par sa nature pour garder la promesse. Il a dit ce qu'il a dit, il le fera. Et non seulement il est fidèle, mais il est juste. Dieu ne va plus vous punir si Jésus est mort pour vous. Et le passage que nous voyons, il y a un petit mot concernant la fidélité de Dieu. Il dit: dans ton affliction, il a dit que voilà ce qu'il a déclaré qu'il va faire. Il a déclaré un certain nombre de choses. Il a dit qu'il va nous sanctifier. Nous parlons de la sanctification d'une manière confessionnelle. Combien confession, c'est lui qui le fera. S'il est fidèle, il le fera. S'il est fidèle, c'est lui qui le fera. Quand il est fidèle, il va mettre fin à des choses comme il a promis, avoir fin à des choses. Et en son temps, selon son objectif.
Ce qu'il y a, c'est que la fidélité, il est fidèle à sa propre justice. Il doit faire ce qui est juste et bon. Il est fidèle envers les pécheurs pénitents. Le psalmiste dit dans ce cas, il a fait ce qui est bien, ce qui est important. Et donc, nous comprenons que nous ne devons pas accepter, nous devons parler. Si par exemple, vous parlez à votre enfant qui a 5, 6, et quand vous lui posez la question, comment est-ce que tu jouis, tu acceptes la punition de papa et de maman? Alors, en ce moment, il va dire que si c'est le cornet de votre maison, si c'est là-bas que vous passez beaucoup de temps pour contempler, oui, c'est vrai que ce n'est pas aussi loin. Et j'étais avec toi, j'étais très engagé avec des choses que vous aimiez, quelque chose qui vous plaît. Vous réveillez un matin et vous dites que je crois qu'un jour, cette ambulance va venir, je peux utiliser une autre stratégie. Et bien, ils vont se dire, c'est vrai, je jouis de ma vie. Mais il y a d'autres choses qui peuvent venir dans votre vie, qui constituent des épreuves, des difficultés, des défis. Mais dans tous les cas, Dieu enseigne et il nous dit qu'il est fidèle. Et nous pouvons ne pas connaître l'objectif pour lequel il le fait. Souvent, nous ne connaissons pas ça. Jusqu'à ce que tu ne grandisses et que tu ne dises, ah, je peux voir cela maintenant, je peux comprendre que ces difficultés m'ont produit cela, mais ces afflictions venant de Dieu, dont il parle ici, dont le psalmiste parle ici, il dit que voilà les afflictions que Dieu a déversées sur moi, mais il fera ce qui est fidèle et ce qui est juste. Je sais, Dieu, que tes droits sont justes. Quel que soit ce que tu as fait, c'est juste. Et nous nous consolons en cela, nous nous plaisons en cela, et que nous soyons totalement pardonnés, totalement engagés. Pourquoi? Dieu fera ceci ou cela. Et comme il a dit, Dieu est fidèle. Matthieu Henry a dit que je sais, Dieu, que tes jugements sont justes et justes en eux-mêmes. Et bien de là, Dieu est content. Il dit que personne ne peut changer ou l'accuser de tout d'une iniquité. Il dit que c'est moins que ce que nous méritons. Nous savons que Dieu est saint dans sa nature, il est sage et juste dans tous les actes de son gouvernement, et par conséquent, nous ne pouvons que savoir en général ce que les jugements sont justes, bien que dans certains cas particuliers, il puisse y avoir des difficultés que nous ne devons pas facilement résoudre. Voilà, ce sont les difficultés que nous avons étudiées nous-mêmes, que nous cherchons à contempler. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je connais? Je sais que Dieu est fidèle et qu'il n'a pas de journal. Et nous, les individus, dans notre petite église, non seulement pour notre dénomination, il a toute la parole de Dieu, il va accomplir cela. Et ce qui nous entend dans notre vie individuellement, où s'il y a la souffrance de Dieu, mais s'il y a la souffrance de Dieu, la Bible dit que Dieu est fidèle à le faire. Ici, David avait eu beaucoup d'occasions dans lesquelles il a chanté les psaumes, il a donné la gloire à Dieu pour les grandes choses que Dieu a accomplies. Mais ce n'est pas là où nous sommes. Ceux qui ont d'autres psaumes, on va le voir après. Mais nous commençons avec notre compréhension en parlant de la fidélité de Dieu, les afflictions qui sont réservées aux justes pour faire les choses justes. Voilà, c'est une bonne chose. Et parce que c'est bon, nous allons continuer par les moyens que Dieu lui-même a créés. C'est comme lorsque tu vas chez un chirurgien. Vous pensez à quelqu'un qui vous a coupé avec un couteau. Vous allez penser que c'est une mauvaise chose, non? Comment quelqu'un va prendre un couteau, va vous couper? Mais le chirurgien, nous lui donnons la possibilité de nous déchirer par un couteau parce que nous savons qu'en le faisant, nous allons souffrir, mais c'est pour régler un problème. Dieu est fidèle et il veut accomplir ce qu'il a dit, ce qui est bon et fidèle. Verset 76. Que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur. Il dit, voilà ce que tu m'as dit, voilà la promesse que tu m'as faite. Il faut que ta consolation, que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur. Vous voyez, il dit, c'est l'amour de Dieu qui nous donne la consolation. La solution que nous avons, c'est de savoir qui est Dieu. Nous connaissons ses plans. Nous allons connaître tout le détail de ce que Dieu est et ce qu'il fait. Il n'y a rien de plus qu'il faut prendre dans la chambre de l'affliction, plus que la compréhension de Dieu et les objectifs, là où il veut nous laisser, les promesses qu'il nous a faites. Voilà ce que le psalmiste met devant nous. Et il dit que vous pouvez rater certaines promesses, mais maintenant je souffre, je me rappelle qui tu es, je me rappelle que tu as promis des choses et tu ne peux pas avec ta nature dire non à la promesse que tu as faite. Et si l'affliction est de Dieu, alors c'est pour son bon plaisir. On m'a demandé de savoir la compréhension qui est donnée dans le verset 73, verset 76. Il faut comprendre que la souffrance est amère, ça fait mal, mais c'est bon de rappeler à Dieu ses promesses. Celui qui est affligé a besoin de consolation. Ceux qui sont affligés ont besoin de consolation. Et donc, s'il vous plaît, il ne faut pas vous imaginer être les anges et aller partout pour voir les difficultés et dire que, ah, voilà ce que tu nous as. Est-ce qu'ils ont besoin de croire en Dieu? Oui, ils peuvent, ils doivent comprendre Dieu, mais il faut qu'ils sachent aussi que ce que Dieu est, que les afflictions peuvent venir. Voilà ce que Dieu promet, voilà ce qu'il fait, et il fait de bonnes choses. Mais ce qui est bon, et pour ceux qui aiment Dieu, tout marche bien pour le bien. Dieu est honnête et fort. Même lorsque nous sommes pendant les temps d'affliction, Dieu est compatissant. Verset 77, il dit que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Lorsqu'il dit que tes compassions viennent, il dit, c'est vrai que la porte sera ouverte. Et la miséricorde ne doit pas partir. La miséricorde ne doit pas partir. Et bien sûr, c'est Dieu qui, on demande à Dieu, il demande à Dieu de donner de la miséricorde à ma vie. Il faut le faire comme tu l'as promis. Ils ont invoqué l'Éternel, que ta miséricorde vienne à nous. Envoie ta miséricorde, envoie ta bonté pour que nous puissions avoir la compassion. Dieu envoie la miséricorde, même ceux qui ont payé les frais d'affliction et ceux qui ont trouvé des choses, c'est des luttes. Il y a certaines luttes. Nous nous tenons sur la parole de Dieu parce que nous avons refusé de désobéir à Dieu. Alors nous sommes là et nous faisons face à la souffrance. Et c'est comme Moïse, il est là. Dieu veut que nous puissions éviter ce qui est pécheur. Et donc, le psalmiste qui demande la miséricorde, il dit, viens à moi, Dieu l'a dit. Il ne demande pas la justice, il demande la miséricorde, que tes compassions viennent sur moi. Il a été libéré par l'amour de Dieu. La miséricorde concernant la demande pour être en harmonie avec Dieu, la compassion de Dieu. Il faut prendre quelques moments pour parler de quelques questions qui peuvent venir dans votre pensée, qui sont là et qui peuvent encore arriver. Mais certaines choses qu'il fait lorsque nous essayons de comprendre le problème avec les souffrances et les difficultés, lorsque nous décidons des choses qui nous amènent à douter ou bien à réfléchir de ce que Dieu est, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que pourquoi Dieu a créé le mal, pourquoi le mal existe. Vous avez compris que cette petite discussion fait partie d'une grande discussion que je ne veux pas que vous compreniez même. Il y a des choses qui vont au-delà de notre compréhension. Il y a des choses aussi et ici qui sont très claires et nous devons les prendre et nous devons avoir une main sur ce que Dieu est en train de faire. D'abord, comment est-ce qu'un bon Dieu puisse permettre à ce que l'affliction vienne. Ce qui est bien, ce qui est bien ici, c'est que il y a des gens qui disent que la bonne personne va préparer. Nous nous posons la question, comment est-ce qu'ils vont avoir leur information? Et j'ai compris que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de problème nous comprenons que les hommes, les femmes, ils sont commandés à pouvoir aller. Mais Dieu, apparemment, n'a pas de problème quand il va dans le livre d'Apocalypse. Il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a des gens qui sont tués, qui meurent. Mais est-ce que Dieu qui est bon, comment est-ce qu'il est un bon Dieu? Mais il permet les tueries. Il y a des gens qui pensent que le bon Dieu, c'est Dieu qui fait de moi un homme heureux, une femme heureuse. Si je suis content et que je suis dans une atmosphère de joie, quand il y a l'argent qui est jeté sur moi, dans les louanges et l'appréciation, si c'est ça qui est l'objectif, si ma compréhension de la bonté et que Dieu est un bon Dieu, si c'est comme ça ma compréhension qu'il fait toujours ce qui est bon, non, je n'ai pas une bonne compréhension. Dieu, l'homme ne connaît pas tout, il n'est pas en mesure de voir les résultats, mais Dieu est bon et il fait ce qui est juste, ce qui est bon pour ses enfants. Tout ce qu'il fait est bon et c'est ça qui apporte la louange et la gloire pour lui-même. Et donc ce n'est pas qu'il me fait toujours heureux, qu'il fait de moi un homme heureux, ça c'est vrai, mais c'est qu'il donne la gloire et la louange à Dieu. Et parfois Dieu fait cela pour que nous puissions passer par des expériences horribles. Parfois il le fait à travers les louanges, les temps de communion que nous avons. D'abord, comment est-ce que l'affliction peut arriver? Cela peut arriver parce que Dieu veut que ce soit un moyen par lequel il veut nous prendre et sa création pour amener quelque part, et c'est sa louange. Et c'est qu'est-ce qui est la mauvaise vie, la mauvaise chose? Comment est-ce que Dieu peut me faire ceci, la chose négative? Qu'est-ce qui peut amener les difficultés dans nos vies? Parce que nous avons commencé à nous rebeller contre Dieu, à pécher, à nous rebeller contre Dieu. Alors il nous appelle en tant que son père pour nous affliger, pour nous faire souffrir. C'est comme l'auteur des Hébreux a écrit, il dit que c'est pour nous faire souffrir. Il a dit qu'il a vu, il a trouvé cela important de pouvoir faire la chose en ayant cela. Comment est-ce que nous voyons toute la création? Est-ce que nous voyons la création comme quelque chose que Dieu a envoyé, ou bien c'est l'homme qui l'a envoyé? Mais si c'est l'homme qui a envoyé la création, ça voudra dire que tout doit être au sujet de ce qui va rendre l'homme heureux, ce qu'il veut, ce qui va le rendre heureux. Si c'est pour la création vient de Dieu, alors c'est de lui donner toute la gloire, la louange. Et malgré l'évaluation qui concerne la vérité, c'est que Dieu est seul, est capable de nous faire connaître ce qui est bien et également connaître la souffrance. Il nous a créé, le Dieu nous a créé, et nous voyons les œuvres de la création le concernent. Et son objectif, ce n'est pas de donner la longue vie à quelqu'un dans l'histoire, mais son objectif, c'est de pouvoir faire toute chose qui va permettre à ce que l'homme adore et loue Dieu. Quelles que soient nos souffrances, nos maladies, nos défis, et quand comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bon dans cette condition, dans ce monde mauvais? Et comment un bon Dieu peut faire ce qui n'est pas de notre avantage et que nous pouvons évaluer des choses négatives? Et il dit que malgré tout cela, il fait ce qu'il fait pour qu'il soit glorifié, pour qu'il soit loué. Et ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. La souffrance souffrir sans objectif est très horrible. Il y a des gens qui disent, cet enfant Oh, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Toutes choses arrivent à tout le monde qui arrive. Et c'est concernant la vie. Ça, c'est une aide qui n'est pas de Dieu. L'aide qui va venir, c'est de nous rappeler. Et que cela soit un rappel pour nous que ces choses, Dieu les utilise dans notre vie. Ces choses, Dieu les accomplit. Il accomplit sa vérité à travers nous. Et c'est une expérience qui a un objectif. Dieu fait quelque chose et tu dis que je vais te louer par cette œuvre de miséricorde maintenant. Mais quand ce n'est pas le plaisir de Dieu, vous savez, il dit que je suis content que vous fassiez quelque chose. Ma souffrance n'est pas vaine, ma souffrance n'est pas sans objectif. C'est pour que je sache ce que Dieu est en train de faire. Verset 78. Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Et la phrase, il ne faut pas que vous compreniez comme si c'est ce qui va arriver, c'est ce qu'il veut. Il dit non. Verset 79, il dit qu'ils soient confondus. Verset 78, les orgueilleux, les méchants, ils m'opprime sans cause. Il ne dit pas que quelqu'un a pris ceci et que je suis là encore. Non, ce n'est pas ça. Je ne me sens pas bien. Il y a des moments où tu te sens, tu n'es pas content, tu as honte. Il y a des gens qui disent il faut qu'on les dépeigne comme des gens qui ont commis le péché. Il y a le vide et ils ont échoué. Donc, il ne faut pas être comme cela. Comme nous allons trouver le moyen, ils ont prouvé que le vide qui s'installe dans la vie de l'homme, c'est que la colère de Dieu va s'abattre. Le méchant mérite que Dieu soit l'ennemi de ses ennemis parce qu'ils nous ont fait du mal. Il y a des gens qui sont là. Mais il dit que moi, je vais méditer, je vais penser, je vais pousser, mais pour que nous puissions avoir la compréhension de ce qui arrive en se basant sur la parole de Dieu. Dans le verset 79 et dans le verset 114, quand on retourne, verset 79, nous lisons concernant la fidélité de Dieu. Et David, dans sa souffrance et dans son encouragement, il avait ses souffrances. Il dit qu'il revienne à moi ceux qui te craignent et que ceux qui connaissent tes préceptes. Verset 114, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses. Maintenant 79, il dit qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent. Ils adorent Dieu, ils le louent et ils lui parlaient et ils me parlaient et me regardaient et ils faisaient cela. Et donc ils peuvent dire que voilà ce que Dieu fait. Et si Dieu le fait, alors Dieu peut le faire également ici. Et le psalmiste dit, il faut voir ce qu'ils ont fait. Fais ce que tu veux faire. Déverse ta miséricorde sur moi de telle manière pour que je puisse qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent, à ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent tes préceptes, il dit, non, que moi-même je puisse avoir ceci, non. Mais laissez qu'ils reviennent et me voir. Ils vont voir le type de Dieu que nous sommes. La fidélité de Dieu nous permet d'avoir la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand quelqu'un vous donne une histoire sur comment Dieu, quand vous voyez comment Dieu a manifesté son amour, cela nous pousse à crier, à pleurer. C'est ce que le psalmiste est en train de dire, que sa provision, c'est pour les vrais croyants, les vrais. Calvin a dit que nous devons apprendre de comment Dieu détermine les vrais adorateurs. C'est la crainte de Dieu. Et cela doit être, à cela doit être associé la connaissance. Quelle est la nature de la vraie religion? C'est d'avoir la révérence du Dieu que nous suivons et c'est le salut. Alors, il y a également la connaissance de Dieu, la compréhension de Dieu, connaître la Bible. Dieu est fidèle. Et ceux qui le craignent
doivent le savoir. Voilà un exemple de comment Dieu a été fidèle. Et pour terminer dans le verset 80, l'objectif de Dieu est et sa provision. Dans le verset 80, il dit « Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. » Je suis là avec ta parole, aide-moi pour que mon cœur soit sans péché et que je fasse ce que Dieu me demande. Je suis fidèle à ce à quoi Dieu m'a appelé et il me permet que mon cœur soit sans péché, comme que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. La prière, c'est que Dieu fasse de nous des gens qui n'avons pas de péché parce que nous avons suivi Dieu. Calvin a écrit concernant la volonté de Dieu. Il a parlé que Dieu va nous aider, mais sa volonté est que, et ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il demande l'aide? Mais vous ne vous retrouvez pas dans une boutique depuis 6 heures et vous dites, et que vous trouvez, il y a des choses que vous recherchez. Vous n'allez pas dire, ah, s'il vous plaît, aidez-moi à vous trouver ceci. Parce que vous-même, vous pouvez toucher cela. Et la raison pour laquelle nous demandons de l'aide, c'est parce que nous ne pouvons pas faire certaines choses. Et c'est pourquoi nous demandons que les gens nous aident. Et donc, Calvin nous dit que nous devons comprendre que nous continuons par tâtonner, et c'est vraiment l'école, la lutte là qui nous permet de continuer. Mais il y a des gens qui croient à la volonté, à la liberté de réflexion de l'homme parce qu'il a fait le choix, il a le libre arbitre. Non seulement nous, que Dieu puisse l'aider parce que sa volonté est faible, il ne peut pas ne pas accepter cela. Mais mon cœur, Dieu fait ce que moi je ne peux pas faire, accomplit ce que je ne peux pas accomplir. Il faut me délivrer de mes difficultés, qu'il y ait des choses, que tu me donnes la compréhension et que je puisse comprendre. Et ceux qui sont dépravés, vous savez qu'ils sont, on a besoin et que nous soyons là où nous sommes. Nous devons être réveillés par la parole de Dieu en nous. Nous avons besoin de Dieu pour nous sauver. Nous avons besoin de Dieu pour nous fortifier. Nous avons besoin de Dieu pour nous aider à persévérer. Nous ne dépendons pas de notre propre force, mais nous dépendons de Dieu et de Dieu seul. Nous allons voir quelques prières et ça serait la fin. Quand vous voyez dans le verset 78-79, il y a des moments où il fait une prière qui est devant nous. Et nous devons écouter cette prière. Nous devons prier comme cela. Sinon, nous allons... Peut-être que vous avez fait et vous avez offensé quelqu'un. C'est vrai que nous ne prions pas que Dieu puisse couper la tête de ceux qui ne font pas bien. Vous voyez, nous sommes des membres de presbytère. Nous ne prions pas que les gens qui sont venus pour se coiffer, donc ceux qui sont arrogants, qui sont en opposition à Dieu, nous ne prions pas qu'ils puissent périr, qu'ils voient la conséquence de leur acte. Nous prions que tu les amènes à comprendre qu'ils ne doivent pas aller dans le chemin là et que cela est pour leur honte. Et il dit que il donne des exemples vers la fin, que certains croyants vont être encouragés par des exemples. C'est vrai que nous pouvons être encouragés. Dieu, et utilise-moi dans la communion que tu as créée. Permets que je puisse être un encouragement aux besoins d'autres personnes, et afin qu'ils puissent vivre sans péché, ils puissent vivre dans la sainteté. Et Dieu, aide-nous à connaître ta parole, aide-nous à vivre conformément à ta parole. Et donc, nous avons compris, quand nous avons parlé de l'homme qui a été créé par Dieu, mais il a été créé pour qu'il puisse endurer, supporter les moments de difficulté et de défi. L'homme a été créé pour obéir et croire
Et pour être fidèle à Dieu, il doit comprendre et obéir, et il doit être également, il doit continuer par marcher dans la voie de Dieu. Et nous avons appris aussi comment nous gérons les difficultés, les défis. Vous savez que Dieu est fidèle. Vous devez vous rappeler que Dieu et son amour n'échoue pas. Vous vous rappelez que Dieu est compatissant. Vous savez que Dieu combat ceux qui s'oppose à son peuple, et Dieu est fidèle à ceux qui lui appartiennent dans leur souffrance, et Dieu va faire la provision pour que ses enfants qui souffrent puissent avoir la délivrance. Et pour vous qui souffrez, vous ne devez pas être découragé, vous ne devez pas perdre l'espoir, vous devez comprendre que Dieu va vous secourir. Mais quand il vous secourt, il ne faut pas rentrer dans le combat contre Dieu par ta propre force. Vous savez, là où on l'a envoyé, Dieu est fidèle. Il a un amour qui ne choue pas. Il est fidèle à ses commandements. Il fait la provision à ses enfants quand ils souffrent. Et c'est pourquoi ça, c'est notre espérance. C'est notre consolation. C'est notre choix que Dieu lui soit avec nous là où nous avons besoin de lui, quand nous nous trouvons dans des lieux difficiles et dans les lieux compliqués, à des moments compliqués. Prions. Nous prions, Seigneur, tes bénédictions, après avoir écouté ta parole, la prédication de ta parole, que cela produise la bénédiction, que cela change nos pensées. Nous savons que c'est clair que nous allons connaître les difficultés, les défis dans nos vies, Seigneur. Nous savons que nous n'avons pas besoin de demander cela. Il y a les défis, il y a les difficultés, mais nous demandons que, à travers ta miséricorde, que tu puisses implanter à nous la vérité. Même si nous faisons face à des difficultés, nous allons demeurer fermes. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.